This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Bonjour à tous, je suis Alice Vacher, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Agnès Lahana, la directrice du développement durable RSE du groupe Barrière, le groupe qui compte aujourd'hui 32 casinos, un club de jeux, 19 hôtels, pour la majorité des 5 étoiles et un palace, plus de 140 restaurants, des bars, enfin bref. Agnès, tu vas m'en parler, je suis ravie de t'accueillir dans L'Empreinte.
Merci, bonjour.
Bonjour.
Je suis ravie d'être là aussi, très flattée de cette invitation.
Très contente parce que c'est un sujet qui me passionne. Je trouve que c'est un secteur qui a plein d'opportunités pour sensibiliser et embarquer avec lui tout un pan de la population qui est un peu plus compliqué à embarquer d'ailleurs sur ces sujets-là en général. Et donc, vous avez toute votre légitimité.
Très bien, allons-y.
Allons-y. Bon, alors déjà, raconte-moi un peu ce que vous faites au sein du groupe Barrière en matière de RSE. On va peut-être parler d'abord, le luxe, peut-être que la question qui revient le plus, ça va être sur l'inclusion sociale pour le luxe. Comment est-ce qu'on fait pour rester, pour concilier luxe et inclusion ?
Alors, il faut peut-être déjà resituer dans le contexte. On est un groupe centenaire, en fait, nos 110 ans cette année. Et la RSE chez Barrière a commencé autour de 2010, donc pas très tôt, mais pas assez tôt aussi en même temps. Et on a commencé très fort parce qu'on s'est lancé sur une certification ISO 14001.
Donc, est-ce que tu peux repréciser ce que c'est, parce que
l'ISO 14001, c'est le management de l'environnement quelque part.
D'accord.
Et c'est très très administratif. C'est énormément de calculs, un peu comme l'empreinte carbone aujourd'hui, mais à l'époque c'était pas du tout adapté à nos organisations. C'était calculer les flux entrants, les flux sortants. Les équipes n'étaient pas préparées. Et il a fallu beaucoup de rigueur du jour au lendemain. On a obtenu les certifications. On a été très fiers, même à deux reprises. Sauf qu'on s'est dit, si on veut embarquer tout le monde et être efficace et les amener dans une réalité qui est la protection du vivant, tout simplement, et l'étude de notre impact, on ne va pas y arriver de cette façon-là. Donc, on va revoir nos process. Et c'est de là qu'est née Planète Barrière. Donc, la RSE chez Barrière s'appelle Planète Barrière. Et petit à petit, on a mis en place une politique annuelle. On a mis en place des RDD. Ce qu'on appelle des RDD, ce sont des relais du développement durable qui sont dans tous nos établissements le référent de notre politique. Ça peut être un barman, ça peut être un croupier, ça peut être un chef cuisine. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'autour de nos RDD, tous nos métiers sont représentés et on a besoin de toutes ces compétences-là pour porter la RSE chez Barrière, pour être efficace dans chacun de nos corps de métier. Donc, c'est là que je rejoins un peu avec ta question d'inclusion.
Oui.
C'est-à-dire que pour être inclusif, il faut embarquer tout le monde et tout le monde dans nos parties prenantes, mais aussi dans nos collaborateurs, mais aussi dans le secteur d'activité avec tous les métiers que l'on peut avoir dans notre groupe. Donc, voilà comment ça a commencé. Voilà comment c'est porté au quotidien, à savoir que si on a des points de progrès et des bonnes pratiques à mettre en place au niveau des bars ou de la restauration, on va appeler le RDD qui est professionnel à la matière, on va appeler la direction aussi concernée, on va tous se mettre autour de la table et on va co-construire des actions, des engagements et des KPI qui peuvent être utiles à tout le secteur et derrière, de bout en bout, ça fait une politique et une stratégie.
Et alors, ce RDD, comment est-ce que vous le sélectionnez ? Est-ce qu'il se porte bénévole justement pour incarner ces sujets-là ou est-ce que c'est vous qui...
C'est une très bonne question. La première idée, c'était que les gens spontanément se manifestent. Après, c'est plus ou moins facile. Après, il faut capter aussi plus ou moins large public. Donc, on s'est dit, on va d'abord demander Et une fois qu'on aura déjà une liste par établissement, les endroits où il en manque, on va faire appel au directeur des établissements, en étant persuadé qu'ils connaissaient très bien leurs équipes, en disant bah, chacun a des appétences et des compétences ou révèle dans son quotidien des sensibilités. Et du coup, on était aussi aidés par les directeurs d'établissement pour nous dire bah, « j'ai identifié un tel, il est très sensible au tri, par exemple, il passe notre temps à nous dire bah, « il faut faire ci, il faut faire ça ». Ou alors, dans mes équipes, il y a la gouvernante. On estime que par rapport à son métier, puisqu'elle est dans tout l'établissement, elle a un regard attentif sur tout. Et du coup, ce serait intéressant de mettre en place quelque chose avec elle. Mmh. Et voilà, et okay. Ça s'est aussi construit comme ça. Après, on a beaucoup de turnover, hein, ça fait partie de notre secteur. Eh bien, soit la relève est assurée.
De turnover dans tous les corps de métier ?
Oui, oui, oui.
D'accord.
D'autant plus depuis le Covid.
Et est-ce que c'est pas
un vrai mouvement ?
Justement, est-ce que le fait d'avoir des références, ces sujets-là, ne peut pas un peu créer un peu de la rétention, en trouvant peut-être davantage de sens ? Dans leur métier ?
Alors, c'est ce qu'on est en train de mettre en place de plus en plus. D'abord, dans les entretiens que l'on peut avoir, on est de plus en plus interrogé sur nos enjeux et sur nos engagements par rapport à notre politique RSE. Donc, effectivement, ben, ça fait sens. Hein, aujourd'hui, les collaborateurs et ces générations-là veulent être utiles, se sentir utiles et puis veulent aussi être alignés. Et comment ne pas être aligné si on fait quelque chose qui va à l'encontre de ce dont on est convaincu, par exemple. Donc, j'ai envie de dire, oui, grâce à Planète Barrière, on attire des gens. Pour autant, ça ne fait pas tout, en fait. Ça ne fait pas tout. En tout cas, j'en profite pour féliciter et remercier les RDD. Ceux qui sont là encore, ceux qui sont à venir et ceux qui sont partis, parce que ce sont nos plus beaux ambassadeurs. Et on parle du monde du luxe, parce que je sais que je vais être interrogée sur ça, mais en fait, pour moi, il n'y a pas luxe ou pas luxe. En fait, pour moi, il y a juste des gens, des personnes, du vivant, et comment chacun, à notre manière, en tant que citoyen, en tant que collaborateur, en tant que client, on est engagé et on essaye d'aider pour que ce soit mieux demain et pour que notre impact soit le plus neutre possible, en tout cas le plus bienfaisant.
Mais le luxe a toute sa place, il a toujours existé, il existera toujours. De toute façon, c'est comme le discount, hein, ça reste un marché voilà, un peu plus haut de gamme. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, mais comment vous arrivez à concilier luxe et sobriété imposée par le GIEC ? C'est quand même un peu antinomique quand tu regardes bien. On le voit, enfin souvent d'ailleurs, les palaces sont pointés du doigt pour l'électricité consommée, etc. Comment est-ce qu'aujourd'hui, parce que ça doit être un vrai challenge pour vous, de vous dire, je dois proposer le même confort, le même standing aux personnes que je reçois, vu qu'ils payent pour ça, mais je dois être sobre.
Tout à fait. Alors, pour votre information, bien avant qu'il y ait ce plan de sobriété porté par le gouvernement, on a mis en place, porté par le décret tertiaire, parce qu'on est soumis à un décret, nos établissements recevant du public de plus de 1000 mètres carrés, sont soumis à une obligation du décret tertiaire qui nous impose moins 40% de réduction de nos consommations d'énergie d'ici à 2030. Mais au-delà de ça, on était déjà embarqué avant, c'est-à-dire qu'on avait déjà mis en place des bonnes pratiques, pas que en lien avec l'énergie, mais qui ont un impact sur l'énergie. Donc, dans chaque établissement, vous pouvez trouver dans les back-office des affiches de bonnes pratiques. Aujourd'hui, on en a fait dédié à la sobriété énergétique parce que c'est le sujet du moment et qu'il faut y porter une attention particulière. Mais déjà bien avant, on a mis en place un comité bâtiment durable qui se réunit toutes les semaines et qui typiquement traite ce sujet de sobriété, entre autres. C'est-à-dire comment on fait que nos bâtiments soient les plus respectueux possibles et pour notre clientèle et pour l'environnement et qu'on soit luxe ou pas luxe, comment on fait pour respecter tous les engagements que l'on propose. Donc, ça passe par des matériaux plus étudiés, par des critères que l'on impose dans des cahiers des charges, par des équipements et des mises... Par exemple, je vous explique pour la clé en chambre, quand on met sa clé dans la chambre, on a un certain éclairage qui se met en place. Et ben, c'est réfléchir à cet éclairage-là. Je pense que le client, qui soit dans un premier étoile, deux étoiles, trois ou quatre étoiles, ça n'a pas d'incidence. C'est le fait de lui laisser la main sur la température de sa chambre, mais de l'éduquer et de le sensibiliser aussi, à savoir qu'avant, il arrivait, il avait une température tout confort. Aujourd'hui, c'est nous qui allons dire, on a fait le choix d'eux, on accompagne. C'est beaucoup de pédagogie, en fait.
Comment ? Parce que pour nous, activistes, c'est plus compliqué d'embarquer ces personnes-là qui sont un peu plus éloignées de nos sphères. Et c'est vous, c'est votre rôle de pouvoir nous aider là-dessus, justement. Ouais. Comment vous arrivez à les sensibiliser ? Ils sont souvent plus réfractaires, puisque Je pense pas. Alors, c'est peut-être mon côté bisounours que les gens agissent mal par volonté de mal agir, mais
c'est plus par
habitude. Pas forcément. Peut-être qu'ils mettent aussi des œillères parce qu'ils ont un confort et qu'ils ont peut-être pas trop envie de renoncer à leur confort. On est tous un peu égoïstes, l'être humain. Faut pas non plus.
On est construit comme ça.
Exactement.
Et il faut en tenir compte dans nos plans d'action.
Mais comment leur proposer un confort différent, peut-être leur donner du sens. Enfin, c'est peut-être comment vous faites en fait?
Eh ben, ça passe par le changement des draps, le changement des serviettes. C'est aujourd'hui, on vous disait, on vous laisse le choix de nous dire si vous la mettez à tel endroit, ça veut dire que vous nous autorisez à ne pas la changer quand vous restez plusieurs nuitées. On se pose la réflexion différemment. Aujourd'hui, on se dit, bon, ben, ça marche et ça marche pas parce que les gens ne lisent pas forcément ce qu'on écrit.
Non,
faut dire qu'il y a si on veut tout afficher, on rentre dans une chambre où il y a des indications de tous les côtés et c'est pas le but non plus. Donc, c'est plutôt de l'information, peut-être sur nos réseaux sociaux, peut-être aussi dire maintenant, on va systématiquement, comme on le fait avec la température, dire que c'est comme ça chez Barrière. Si vous voulez différemment, à vous de nous le signaler. Tout comme, par exemple, les frigos.
Et il n'y aurait pas moyen de se dire, tiens, en fonction de la... Je ne sais pas, c'est une bêtise, mais là, je viens juste d'y penser. Moi, de toute façon, je déballe mes bêtises. Ouais. En fonction de la consommation énergétique ou même de la consommation, je ne sais pas, alimentaire de la personne, de son gaspillage, quand on voit des repas, il peut avoir pas une réduction, mais son prix peut être majoré ou minoré. Bon, après, ces gens-là n'ont pas forcément de problème d'argent. Mais je ne sais pas, peut-être pas une incentive, mais quelque chose qui fasse que... Ou je ne sais pas, X% de sa chambre sera reversée à une asso. Je ne sais pas, encore une fois. Mais...
On fait des actions ponctuelles comme ça pour sensibiliser. Par exemple, dans notre chambre, on offre un café joyeux. On veut d'abord faire marcher Café Joyeux et tous les bénéfices, comme vous le savez, sont reversés à la création de Café Joyeux. Mais on veut faire connaître la marque, on veut faire connaître les engagements et tout ce que fait cette marque de bien. Et donc, ça passe par des petits gestes comme ça. Sachez que quand vous buvez ce Café Joyeux, ça attelle. Et de temps en temps, on fait, voulez-vous faire un don pour tel engagement? Donc, effectivement, on n'a pas aujourd'hui, et même si c'est en réflexion, ce n'est pas encore acté, d'offres, comme vous dites, ces gens-là ne sont pas sensibles à l'argent.
Non,
donc,
c'est pour ça que
je suis pas certaine que si on veut faire porter un message, passer par là, c'est la meilleure solution. C'est plus, par exemple, je vous dis un exemple idiot, mais parce que ça me vient comme ça, il y a quelqu'un qui va nous demander des fraises pour faire plaisir à sa femme, alors que ce n'est absolument pas la saison des fraises. Et, et ça va être de l'accompagnement, beaucoup de pédagogie et des équipes formées pour dire, parce qu'on forme nos équipes au gaspillage alimentaire, mais aussi à une nourriture plus saine, plus durable et à privilégier le local au maximum. C'est pourquoi pas avoir des équipes toutes souriantes qui arrivent, mais oui, monsieur, c'est trop gentil de faire plaisir à votre femme et de vouloir lui offrir une fraise. Sachez qu'en ce moment, c'est la saison des prunes et qu'on a des très bonnes prunes et tout ça. Et commencer à embarquer nos clients comme ça, avec beaucoup de gentillesse, de pédagogie et le savoir-être qu'ont nos équipes. Ils ont beaucoup le sens de l'accueil et on est très contents d'avoir cet accueil à la française, comme on dit dans le groupe, et faire passer des messages comme ça. Après, il accepte ou pas, en tout cas, il sait. Il sait et il a le choix. Et pourquoi pas, la prochaine fois, il va dire, bon... Au fait, ma femme, ça lui a fait plaisir, les prunes. Ou alors, vous m'avez dit, finalement, pourquoi pas, on va... Et tout simplement, ça prend du temps, mais c'est de la bienveillance, en fait. Je pense que, et on l'a dit en début de ce podcast, quand on accueille les gens avec bienveillance et qu'il n'y a pas de jugement et qu'on essaye d'apporter des solutions sans vouloir absolument y mettre une notion de négativisme ou de jugement, parce que des vraies solutions aujourd'hui, des vraies bonnes solutions, en toute honnêteté, je ne suis pas certaine qu'il y en ait. Il y a plein de solutions.
C'est malheureusement la sobriété, l'innovation.
Et même la sobriété.
Ça
dépend laquelle sobriété, parce qu'elle englobe tellement de choses, cette sobriété.
Mais elle reste indéniable. Et puis l'innovation tech pour aller plus vite et décarboner.
C'est un mix de tout.
Mais c'est
un équilibre.
Exactement. Mais c'est vrai que la question qui revenait souvent, c'est la sobriété. Et là, tu m'as parlé de gaspillage, ça allait être ma prochaine question.
Oui.
On imagine souvent le luxe avec, tu vois, tous ces grands buffets, etc. Comment vous faites pour réduire l'offre alimentaire et le gaspillage alimentaire?
On a fait plein de choses. Tout comme on a mis en place un comité bâtiment durable qui se réunit toutes les semaines, qui suit et pilote les consommations, qui veille à des critères de métaux et de matériaux vertueux. On a mis en place aussi un comité restauration responsable où on a écrit une charte avec des engagements, produire local, privilégier les circuits courts, la saisonnalité, mettre au moins moins un plat végétal à la carte. Et c'est aussi une équipe, j'ai une personne dans mon équipe qui est typiquement formée au gaspillage alimentaire et qui va dans les établissements de temps en temps peser les déchets, accompagner les équipes dans la création de la carte. Voilà, vous avez mis tel poids dans tel plat, est-ce qu'on ne diminuerait pas? On ne pèse pas en qualité. De toute façon, il en reste la plupart.
Voilà. On ne peut pas recuisiner les restes.
Si, on le fait aussi. On fait même des challenges anti-gaspi. Ah. On anime nos équipes en ce sens et on fait gagner des choses intéressantes et on partage les recettes et on diffuse les recettes.
Parce que pour le coup, ça, le gaspillage alimentaire, c'est vraiment accessible à tout le monde.
Complètement. On a mis en place des bonnes pratiques aussi, à savoir que le pain, dans certaines catégories de nos restaurants, on l'amène plus systématiquement à table. Avant, la serveuse arrivait, disait bonjour, amenez la carte et amenez le pain.
Vu le nombre d'intolérants au gluten, j'ai envie de te dire. Hein.
Aujourd'hui, dans la plupart de nos restaurants de casino, le pain, soit ils vont le chercher, soit c'est à la demande ou quand, selon le plat. Enfin, il y a toute une réflexion aussi dans les habitudes que l'on avait. On repense nos habitudes, on repense nos recettes. Donc,
c'est hyper important d'ailleurs ce que tu me dis là, parce que c'est vrai qu'on a... Pour l'avoir expérimenté récemment lors d'un périple à Monaco, on a souvent, j'ai eu un peu de mal, mais on anticipe nos besoins, sauf qu'on n'en a pas besoin. Ouais. Et en fait, faut arrêter d'anticiper des besoins qu'on n'a pas. Et je pense que vous avez, à vouloir trop bien faire, et c'était aussi ce qui était le monde du luxe, c'est que finalement, le sens de l'accueil, en fait, il faut petit à petit, comme tu disais, amener ça un peu différemment et subvenir aux besoins à l'instant T. Bon, évitons les fraises hors saison, mais pas anticiper trop les besoins qui ne sont sans doute pas existants.
Exactement. Sur nos buffets de petit déjeuner, quand on a commencé la mise en place de ces comités restauration responsables, je vais donner un exemple, on avait une centaine de produits qui étaient offerts sur nos buffets de petit déjeuner. Alors, c'est vrai que c'était l'abondance et qu'on avait le choix et qu'il y en avait pour tous les goûts. On s'est dit, mais à quoi ça sert?
Et puis après, tu te retrouves avec tous les trucs sur les bras, ça fait mal au cœur à tout le monde.
Petit à petit, on a fait la méthode entonnoir et on a enlevé mes...
Mais tu regardes ce qui marche le plus, en fait.
Exactement.
Il y a plein de trucs
qui... Et en fait, la RSE, c'est ça, quelque part. C'est des remises en question permanentes et le bon sens et l'analyse. Est-ce que ça vaut le coup de... On se posait la question d'interrompre le temps de l'hiver, en tout cas, parce qu'après, on était... c'est une autre histoire, mais de débrancher tous nos frigos de nos hôtels. Je me dis... Pourquoi on ne commencerait pas par analyser les consommations du 1er octobre au 1er mai et se dire, finalement, il y a trois trucs consommés, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de débrancher et à la limite de dire au client, si vous avez besoin que l'on vous mette le frigo avec plaisir pour vous le brancher, parce que
surtout parfois, c'est des boissons en général dedans.
Exactement, et c'est très rarement utilisé. Donc voilà, c'est ça, c'est le bon sens, c'est revoir ses habitudes, c'est revoir ses pratiques, c'est les partager aussi avec l'opérationnel, c'est important parce que des fois, on va penser qu'une bonne solution... va être utile, je pense, au remplacement des bouteilles en plastique. Quand on a fait des analyses de cycle de vie et qu'on a étudié ces analyses de cycle de vie, on s'est dit, on va repasser à la bouteille en verre. Et moi, j'ai dit, mais attention, il y a les opérationnels derrière. Il y a de la manipulation pour nos équipes. Ça va être des petites choses à soulever avec des gros bacs à faire aller, venir. Si on veut respecter la consigne, ça va... Et donc, il y a les troubles musculo-squelettiques. J'ai dit, est-ce qu'on va être pertinent dans le changement? Si on est mal avec le bien-être et la santé de nos équipes. Donc, on a proposé une alternative qui n'est pas la meilleure solution en termes d'analyse de cycle de vie en tant que telle comme produit, mais qui aujourd'hui est un peu moins pire que le plastique et c'est surtout pour nos équipes qui ne fait pas un changement réel. On interroge nos clients aussi. On met en place, quand on fait des changements comme ça, un petit questionnaire. Et s'ils le souhaitent, lorsqu'ils rentrent chez eux avec le QR code, ils peuvent dire « j'ai testé tel produit dans votre chambre d'hôtel, je l'ai trouvé intéressant, je suis content que » ou « je n'ai pas aimé ». Et on analyse tous ces questionnaires et on change aussi notre offre en fonction de ça. Et c'est hyper intéressant parce qu'on rend le client acteur du changement aussi.
C'est hyper intéressant et ce que tu m'as dit là sur le fait de repenser le E en mettant du S. Tu sais, dans la RSE, c'est un terme qu'on n'aime pas trop parce que le E, peut-être que le mieux, ça aurait été le truc en vert. Sauf qu'en fait, si on pense à nos employés, c'est pas le mieux pour eux. Donc, on va trouver le juste milieu entre les deux. Et je pense que ça, souvent... Parfois, quand on veut trop bien faire d'un côté, on délaisse un peu l'autre. Et quand on veut... Donc, c'est de toute façon, c'est un jeu d'équilibriste.
Tout à fait. Et c'est pour ça que je te disais, on met en place des comités parce qu'on a besoin de tous les acteurs autour de la table. On ne peut pas, nous, prendre des décisions comme ça toute seule en disant, la RSE, on sait qu'en termes d'impact, c'est ce changement-là qu'il faut aborder. Sauf que, c'est ce que je te disais, dans les organisations, si on ne les interroge pas dans leur quotidien, si on ne se met pas à leur place et si nous... ne nous expriment pas aussi comment ils vivent le changement, on ne va pas être bon. Donc, c'est beaucoup d'échanges, c'est beaucoup de dialogues, c'est beaucoup d'écoute. Et c'est beaucoup d'erreurs aussi. Il faut savoir les accepter et il faut savoir se corriger.
Et c'est quoi tes perspectives à venir ? On va dire à court et moyen terme, parce que long terme, on n'a pas le temps, malheureusement.
Ouais, alors, en toute honnêteté, là où on est, à mon sens, pas bon, c'est en termes d'empreinte carbone. On n'a pas calculé.
Tu n'as pas calculé, oui.
On a calculé pour les établissements qui sont nos resorts d'Anguin et de Deauville. Mais aujourd'hui, clairement, ma trajectoire de 2023, de 2030, ça va être, on se pèse à l'échelle du groupe. Mmh. On sait combien on pèse. Et on réduit. On réduit tant qu'on peut réduire. Et puis après, on voit. On voit.
Tu iras calculer quand t'auras un peu réduit. Non, mais je vois. Et puis, je trouve que c'est très transparent. Et merci d'être aussi transparente pour le dire. Je n'ai même pas abordé la question parce que je me doutais que c'était un peu...
Voilà, oui, c'est difficile. Alors, autant le scope 1, scope 2, ça va être facile. Mais là, mon intention, elle a été validée. Et c'est aussi un grand pas dans la gouvernance. C'est aller de prendre en compte le scope 3.
Et surtout qu'en fait, scope 1, scope 2, malheureusement, ça reste du greenwashing. Parce qu'en fait, il manque tout le reste. Donc,
c'est ça. Et même d'aller plus loin, de former mes équipes, de les faire monter en compétences, de façon à ce qu'elles soient autonomes et qu'on puisse aller plus loin, plus vite aussi. Parce que si c'est moi toute seule à la RSE qui porte le projet pour une cinquantaine d'établissements, on ne pourra pas être efficace et pertinent. Là, l'idée, c'est que moi, je me forme, que je forme mes équipes, qu'on identifie avec l'entreprise qui nous accompagne les leviers les plus pertinents à prendre dans le scope 3, parce qu'il y en a tout un choix et tout un panel. Maintenant, il faut qu'on fasse attention à ce que l'on décide de prendre. Et je préfère qu'on en prenne un petit peu moins au début, mais qu'on les prenne bien et qu'on se les approprie pour qu'après, c'est une démarche work in progress, hein, qu'on y aille de mieux en mieux, petit à petit.
Mais surtout qu'encore ici, vous avez un pouvoir d'impact énorme parce que vous allez motiver votre scope 3 à se décarboner au maximum, à réduire leurs émissions aussi et à être le plus vertueux possible. En fait, aujourd'hui, on est tous dans le même bateau et c'est un écosystème qui se met en place. Donc, quand tout le monde, plus les acteurs vont être vertueux, plus ils seront bankable, dirons-nous. Mm. C'est entre guillemets assez génial. Donc, voilà.
On a mis aussi en place un comité achat responsable pour embarquer aussi nos fournisseurs, parce que quand on a travaillé plus de 20 ans avec un seul et même fournisseur, c'est compliqué de lui dire aujourd'hui, je ne veux plus ton produit parce qu'il ne correspond plus à nos engagements, parce qu'il n'est plus à l'attente de ce que la stratégie met en place. Qu'est-ce qu'on co-construit ensemble ? Qu'est-ce qu'on partage pour soit faire évoluer ton produit et on t'accompagne dans ce changement et on se teste l'un et l'autre ? Soit qu'est-ce qu'on peut voir pour trouver une alternative ? Soit merci, au revoir, parce qu'à un moment donné... Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est embarquer nos fournisseurs et voir comment, avec nos fournisseurs, on pourra aussi co-construire des choses qui font faire en sorte que ce scope 3, il soit, dès le départ, un peu mieux ciblé et plus pertinent dans les engagements que l'on doit prendre.
Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nos auditeurs ?
Moi, je suis ravie de tout ce qu'on entend et ce qui se passe autour de la sobriété, parce que pour moi, la sobriété, c'est loin d'être triste comme on veut nous le faire croire. C'est un renouveau, c'est une transformation et je suis tellement fière d'avoir des ambassadeurs dans mes équipes et de pouvoir porter ça au quotidien que merci et merci d'y croire. C'est important d'y croire. C'est avec l'espoir qu'on avance et qu'on fait des actions.
Et ça, je suis d'accord avec toi. Je partage ce point de vue. Il faut rendre l'écologie accessible, sexy et sympathique.
Tout à fait.
Et puis aussi les enjeux sociaux,
nos établissements sont là aussi pour ça, pour rendre les inspirés. On a beaucoup de spectacles, on a beaucoup d'endroits sympas. Et pourquoi on n'inspirerait pas dans ces endroits-là et embarquer les gens aussi ?
Merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. Et proposez-moi des profils aussi inspirants. Je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte.